Les origines. L'apprentissage du leadership. Lorsque j'ai rejoint la SEAL Team One, une force spéciale de l'US Navy, la marine de guerre américaine, organisée en 9 unités dénommées SEAL Teams, équipe SEAL, après avoir terminé la formation de base, intitulée Basic Underwater Demolition, ou BUDS, base de la démolition sous-marine, il n'existait aucun cours pour le leadership. Les nouvelles recrues ne recevaient aucun manuel ni aucune documentation sur le sujet. Nous étions supposés apprendre à commander comme les SEAL l'avaient toujours fait depuis que notre force existait. Sur le tas. Certes, cela présente quelques avantages d'apprendre ainsi. Il est utile d'être coaché et mentoré par un leader solide qui vous forme à mesure que vous vous frottez aux défis concrets de votre travail sur le terrain. Au sein des SEAL Teams, cela signifie qu'un chef vous dit exactement quoi faire en fonction des divers scénarios que vous rencontrez. Si votre chef se trouve être un bon leader, s'il est prêt à miser sur vous et si vous avez l'intelligence d'être attentif, vous finirez par apprendre quelque chose en matière de leadership. Toutefois, cette méthode d'enseignement comporte de sérieuses insuffisances. En premier lieu, tous les leaders ne sont pas des bons leaders. Et les SEAL Teams ne font pas exception. J'ai intégré les SEAL en 1991. Il n'y avait alors pas de guerre en cours. La première guerre du Golfe venait d'avoir lieu, mais les combats sur le terrain n'avaient duré que 72 heures. Les SEAL n'avaient mené qu'un petit nombre d'opérations, relativement faciles. Avant cela, pendant 20 ans, presque tous les autres déploiements avaient eu lieu en temps de paix. La principale mission des SEAL avait consisté à entraîner des militaires d'autres pays. Pour moi, comme pour la plupart des militaires américains, être engagé dans des combats paraissait un rêve lointain. La réalité était que les SEAL Teams et l'ensemble de l'armée américaine étaient passés en mode paix depuis la fin de la guerre du Vietnam, ce qui signifiait que les leaders n'avaient pas vraiment été mis à l'épreuve. Au sein des SEAL Teams, un très bon leader recevait à peu près les mêmes affectations et progressait plus ou moins aussi rapidement qu'un mauvais. Rien ne garantissait donc que l'officier responsable d'une section censé mentorer les jeunes SEAL était le type de leader qu'il fallait imiter. De plus, tous les supérieurs ne sont pas disposés à mentorer leurs subordonnés. Et même les meilleurs leaders ne peuvent véritablement investir leur temps et leur savoir que dans une poignée d'hommes. Même en temps de paix, il y a une tonne de travail administratif à effectuer et de grandes chances que le mentorat et le coaching passent à la trappe. Il incombait donc aux SEAL juniors de prêter attention. Mais bien des choses pouvaient les en détourner. Il était parfois difficile à un membre junior de l'équipe de comprendre qu'il ne serait pas toujours un nouveau, qu'un jour, il aurait à commander une section et qu'il devait apprendre autant qu'il le pouvait afin d'y être prêt. J'ai été chanceux. Des chefs vraiment formidables ont investi en moi. Ils ont pris le temps de m'expliquer les choses. Ils m'ont parlé sérieusement de stratégie et de tactique. Certains des SEAL vétérans du Vietnam racontaient des histoires qui véhiculaient d'importantes leçons tactiques en matière de leadership. J'ai écouté. J'ai assimilé ces récits et ces enseignements. En définitive, j'ai pu soumettre les théories du leadership que j'avais ainsi apprises à l'épreuve ultime, le combat. J'ai alors codifié ces leçons et les ai transmises aux jeunes SEAL rejoignant nos rangs. Je me suis efforcé de leur enseigner comment diriger. Le but du leadership paraît simple. Obtenir des gens qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour soutenir l'équipe et la mission. Mais la pratique diffère selon chacun. Elle comporte des nuances que chacun doit découvrir par lui-même. Les leaders sont tous différents. Ceux qui les suivent sont différents. Leurs pairs sont différents. Chaque personne a ses caractéristiques individuelles, sa personnalité et ses propres perspectives. Je le dis souvent aux dirigeants, ce qui rend le leadership si difficile, c'est qu'il implique de traiter avec les gens et que les gens sont cinglés. Et la personne la plus cinglée avec laquelle un leader doit composer, c'est lui-même. Cela dit, même la folie suit un schéma. Le comportement humain se conforme à des schémas. Si vous pouvez les identifier, vous pouvez prédire comment les événements sont susceptibles d'évoluer et influencer leur cours. Quand j'ai pris ma retraite de l'armée, j'ai commencé à enseigner à des leaders civils les principes du leadership au combat. Puis je me suis associé avec mon ancien équipier des SEAL, Leif Babin, pour lancer un cabinet de consultants spécialisé dans le leadership baptisé Echelon Front. Les principes valables sur le champ de bataille s'appliquent à toute situation de leadership. Nous avons développé ce que nous avions appris au combat dans deux livres consacrés à notre expérience et décrit comment ils s'appliquent dans le monde des affaires et dans la vie. Responsabilité absolue et The Dichotomy of Leadership, les paradoxes du leadership, explique ces principes dans un langage clair et les illustre par des exemples en situation de combat et dans le milieu de l'entreprise. Des leaders du monde entier ont obtenu des résultats incroyables en les appliquant dans leur domaine. Néanmoins, mettre en œuvre ces principes peut être plus ardu qu'il n'y paraît. Si en acquérir une compréhension intellectuelle est assez simple, cela ne suffit pas toujours. Un leader doit maîtriser les stratégies et les tactiques nécessaires pour traduire ses préceptes dans la réalité. Il doit savoir comment les mobiliser de façon pragmatique. Il doit comprendre les fondements stratégiques sur lesquels il repose et les présupposés dont il découle. Ensuite, le leader doit appréhender les capacités tactiques, les manœuvres stratégiques et les techniques de communication qu'il faut déployer pour mettre en œuvre les principes du leadership. C'est ce dont traite ce livre. Comme dans les autres ouvrages que j'ai écrits, les expériences décrites ici le sont de mémoire. Et ma mémoire n'est pas parfaite. Les citations ne sont pas des transcriptions mot pour mot de ce qui a été dit, mais des approximations visant à transmettre l'essentiel du propos. Certains détails ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes concernées ou des informations sensibles. Il n'est pas nécessaire de lire ce livre du début à la fin. Il est structuré et rédigé de manière à servir de manuel de référence et à offrir à tout leader la possibilité de rapidement comprendre et mettre en œuvre les stratégies et tactiques pertinentes dans la situation qu'il rencontre. Leadership absolu est conçu pour accompagner les dirigeants sur le terrain afin de les aider à faire ce qu'ils sont censés faire. Diriger. Qui suis-je pour vouloir apprendre à diriger aux dirigeants? Où ai-je appris l'art du leadership? Une grande partie de mon éducation en la matière relève de la chance. J'emploie ce mot parce que quelques coïncidences heureuses m'ont doté de la bonne disposition d'esprit et ont mis sur mon chemin les bons enseignants ainsi que les bonnes occasions d'apprendre. Une des chances que j'ai eues, qui m'a fait me concentrer sur le leadership, est que je n'avais pas de talent naturel pour quoi que ce soit en particulier. Petit, je n'étais ni le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus intelligent. Je n'ai jamais été doué pour lancer un ballon de basket, frapper un ballon de foot ou une balle de baseball. Je n'ai jamais remporté de course, ni aligné de trophées ou autres récompenses sportives sur une étagère. Mon dossier scolaire n'a jamais été non plus exceptionnel. Je pouvais être un bon élève lorsqu'un cours m'intéressait, mais cela était rare, et mes notes reflétaient mon désintérêt. J'étais moyen en tout. Pourtant, ma personnalité, au fond, me poussait à vouloir réussir. Je voulais faire impression sur les gens. Je voulais laisser une empreinte, mais mes aptitudes athlétiques et cognitives ne me le permettaient pas toujours. Aussi, dès le plus jeune âge, j'ai eu besoin de m'entourer d'autres personnes possédant plus de talent et plus de capacités, à même de faire ce que j'avais besoin qu'elles fassent. J'ai eu besoin de diriger.